Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils sont dans les
Si un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Lobby, une émission par et pour les personnes queer et celles qui se cherchent encore. On est ensemble en direct jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris. Et à mes côtés, comme toujours, une fière équipe composée de Mal, Adrien, Alexis, Javel, Delila et Lucie qui sont avec moi. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Et des bonsoirs absolument magnifiques. Honneur à la nouvelle voix qui nous rejoint ce soir, c'est celle de Delila. On a laissé les fenêtres ouvertes, donc du coup on a un peu d'ambiance dans ce studio pour la première partie de l'émission. Salut Delila.
Salut Colin.
Comment ça va ?
Bah ça va super, je suis ravi d'être là.
De quoi tu nous parles pour ta première chronique dans cette émission, mais pas la première sur Radio Campus Paris, disons-le.
Je vais parler d'éducation.
C'est tout.
Juste l'éducation.
Juste l'éducation.
Je l'ai chevillé au
corps.
En
2 minutes 30.
Bien sûr.
Très bien, c'est aussi le retour de Mal. Salut Mal.
Oui.
Oui, je crois que tu nous parles de jeux vidéo.
Oui, de jeux vidéo. Je me plains aussi de la psychiatrie parce que tous les moyens sont bons.
Très bien, et puis on aura aussi le droit à notre traditionnel ciné-club. Je me tourne vers Javel qui est là.
Bonsoir.
De quel film vas-tu nous parler ce soir, Javel?
Je vais vous parler de la bûche et d'un outil pratique en cette période des fêtes, la désertion.
Super. Mais en fait, il y a beaucoup d'ambiance. On est vraiment. On a l'impression qu'on fait l'émission dans la rue, mais pas du tout. Donc, de désertion, il sera question. La merveilleuse Lucie est avec moi aussi ce soir.
Bonsoir, Colin.
Salut,
bonsoir,
Lucie.
Tout le monde.
Avec toi, on va accueillir notre invité du mois. Mais avant, je salue Alexis et Adrien. Bonsoir à tous les deux.
Hello.
Qui sont vos invités à 20h40?
Ça va être comme trésorier du Calif pour nous parler d'enquête de stats et des conditions dans l'enseignement supérieur.
Voilà, et de transphobie et de LGBTI-phobie dans l'enseignement supérieur. Et juste avant, on accueille donc dans ce studio rien de moins qu'une star. On l'a croisée sur les planches de Madame Arthur et même du cabaret La Bouche. Il y a 2 ans, elle nous offrait Ellipse, un EP plein de 12 ballades au piano, mais pas que. Aujourd'hui, elle est de retour avec de nouvelles chansons et avec une date à la maroquinerie le 15 décembre qui affiche déjà complet. Loa Mercury est avec nous.
Oh, merci, merci, bonsoir. Je suis trop contente d'être là.
Ben, ça nous fait hyper plaisir aussi. Bienvenue, c'est un petit peu chaotique. Sois la bienvenue dans le lobby. On est ravis de te recevoir, Loa. On t'avait reçu, je l'ai dit, il y a 2 ans à l'occasion de ton premier EP. T'étais venue chanter quelques chansons au piano dans ce studio.
Mais oui, tu cherchais un ou une pianiste. Alors j'ai répondu, présente, j'arrive.
Voilà, c'était un très beau moment.
Il y avait c'est tout nu ici sans ce piano.
Et non, on peut pas. On a décidé de réduire le dispositif. Maintenant, il y a plein de gens. Il y a pas de piano,
oui,
mais on est 12 000 chroniqueurs à peu près et chroniqueuses. Il y avait aussi un poète que je salue qui s'appelait Noah Truong qui était à tes côtés, c'était un super chouette moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 2 ans depuis ?
Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a cette chanson qui a un peu fait bouger les choses dans mon parcours, la reprise Un homme et une femme.
Dont on va parler tout à l'heure, on n'en dit pas plus.
Ouais. Et puis sinon, ça avance tranquillement, hein. Parcours musical, la vie de femme dans les rues de Paris, ça continue.
Bah super, ça nous fait très plaisir. Peut-être on s'écoute un petit extrait de ce petit moment avec toi au piano auquel on a eu droit tout à l'heure, il y a 2 ans.
Le jour où le jour dure bien plus longtemps que la nuit, c'est dans la langue qu'on récupère de l'énergie. Est-ce imprudent de lever les stores par cette chaleur?
C'est un extrait de Solstice pour nous réchauffer un petit peu dans ce froid de l'hiver tel que Loa Mercury, tu nous le chantas il y a 2 ans dans le lobby. Lucie, tu nous en dis peut-être un petit peu plus sur notre invitée?
Loa Mercury, c'est une voix envoûtante qui prend le temps, qui impose son propre rythme, c'est un souffle puissant. C'est aussi des images, des limousines, des flammes, des talons aiguilles, une tenue iconique de motarde et du cristal. C'est des yeux clairs qui hypnotisent et qui ne sont pas sans rappeler ceux de Marie Laforêt. Dans son sourire, ça étincelle. C'est doux comme du velours, ça coule. Moi, la pop, ça m'ouvre le cœur. Et avec tes chansons, Loa, tu t'y es installée confortablement, tout en fourrure et big sunglasses. Alors, bienvenue au lobby, on est très honorés de te recevoir à l'occasion de ton concert. C'est dans moins d'une semaine, le 15 décembre, à la Maroquinerie.
Et malheureusement, c'est déjà complet. Peut-être une petite réaction à ce portrait de Lucie, Loa.
Ah ouais, c'est trop émouvant. Je dis, oh, c'est trop gentil. Bah merci. Ouais, c'est bien. C'est un beau. C'est vrai, les limousines. Bien vu la limousine. C'est un beau. C'est un petit détail du clip de Solstice du coup, où je m'évade d'une en pleine apocalypse. Je m'évade en limousine, pensant survivre, et je sors de la limousine et mes pieds se prennent dans du goudron surchauffé, et je suis englouti dans le goudron.
Lucie, tu parlais de pop et de Marie Laforêt. Il y a effectivement des influences très chansons françaises, très pop dans ton travail. Est-ce que Marie Laforêt, c'est une référence qui te parle? J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres que tu aimerais citer.
Ouais, j'aime bien Marie Laforêt. J'ai vu, c'est drôle, mon top 5, mon wrap.
Ton
désolé,
wrap
je cite l'enfer. On dit pas le wrap pour toutes les plateformes. Je ne suis peut-être
d'accord
pas sur ce
le bilan de l'année.
La rétrospective
voilà. De musicale.
SNCF,
mon bilan a mis Nicole Croisi en 4.
Ah oui, quand même.
Ouais. Donc,
Nicole Croisi qui nous a quittés cette
peut
année.
Peut rentrer ici. Ouais, ah bah super. RIP. Et on pense à elle. Et je pense que j'ai commencé à écrire surtout des titres pour séduire une personne que avec qui j'avais envie d'être, et du coup ça a pris la forme de chanson quoi. Donc et j'essaye de cultiver cette espèce de premier élan qui était la séduction, la sérénade, enfin c'est là où l'émotion la plus sincère vient. Et donc, je suis là-dedans.
Et quand tu parles d'émotions sincères, j'imagine que ce registre pop dont Lucie parlait, c'est aussi une étiquette qui te convient. On a parlé de Solstice, il y a aussi une autre chanson que tu avais fait dans ce studio qui figure sur ton premier EP Ellipse qui s'appelle Lune de Miel. Je crois que je t'avais écrit après l'émission en disant « Mais ça y est, j'ai enfin compris que le refrain, c'est les mêmes harmonies que Message personnel de Françoise Hardy,
oui.
Qui je crois est une référence importante aussi pour toi.
Ouais. »
Voilà, être une artiste pop, c'est un truc qui te parle, qui te convient, qui te... Je sais pas.
Ouais, j'aime bien le... J'aime bien le côté pop dans le sens où on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais j'avoue avoir globalement un problème avec le genre.
D'accord.
De façon du coup multiple. J'ai du mal à en fait écouter quelque chose et le rattacher à un genre, ouais. Etc. Donc même moi.
Tu te dis pas, moi je fais de la chanson française quoi. Ça te paraît déjà un peu trop réducteur.
Il y a des choses qui sont vraiment très. Qui en sont très éloignées et je pense que là le concert de la Maroquinerie va aussi être. Un bon exemple de ça, c'est que ça passe par énormément de phases et parfois très loin de la chanson française. Et là, je me dirige vraiment tout droit vers le rock avec des musiciens, etc., qui prennent aussi beaucoup de place et une énergie, un mood très énergique sur scène. Donc. Ça continue.
Encore et encore. Et on va en écouter un avant-goût avec une chanson qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est Los Angeles, le dernier titre que tu as sorti et qu'on va découvrir en live sur la scène de la Maroquinerie le 15 décembre.
Thank you. sentis ton sang, je chéris ta chair. S'achève dans la sécheresse. Tous mes cauchemars démarrent en plein soleil. Mes rêves s'achèvent.
Los Angeles de Loa Mercury, et je vous invite à aller voir le clip de cette chanson parce que ton univers artistique, il est très visuel, avec des images puissantes aux lumières travaillées. Quelle place ça prend dans ton travail, la production d'images?
C'est vrai que quand j'ai des idées qui me viennent pour chaque chanson, des idées d'images, et donc j'ai développé une espèce d'obsession à l'idée de tout illustrer quand même au maximum. Et par exemple, dans Los Angeles, il y a plusieurs plans qui peuvent avoir un sens. Déjà, me réapproprier le monde mécanique, le monde du garage. Moi, j'ai quand même grandi avec des grands-parents qui avaient un garage où je passais beaucoup de temps. Et c'est des endroits où je me sentais bien, par exemple, mais qui... en grandissant et en me sentant exclu du monde masculin, je m'en suis détaché identitairement parlant, on va dire. Alors que ça me plaît, en fait. Mmh. Et j'aime bien ces univers-là, ça me nourrit, ça me procure des choses. J'aime bien l'odeur de l'essence, j'aime bien... Et donc ça revient, en fait, comme un exutoire. C'est inconscient, je ramène tout ça parce que ça m'a été enlevé, en fait, dans le mood board de ma vie. Mmh.
Moi, ça m'a fait penser un peu à Love Lies Bleeding. Enfin, il y a un moment où t'as des haltères dans un endroit un peu désaffecté. Enfin, archi, archi sexy, quoi, de la part d'une Gwyn, c'est magnifique.
Mmh. Et il y a aussi le plan où j'ai une combi entière de motocross. Et ça, en réalité, c'est un petit clin d'œil qui est drôle parce qu'en fait, la majorité des haters sur TikTok, je sais pas si ça a été déjà dit, mais ce sont des gens qui sont fans de motocross. Vraiment, la communauté transphobe est fan de motocross. Et donc, j'avais vraiment envie
d'être réapproprié
une motocrosser, tout simplement.
Et de leur rouler dessus, quoi.
Ouais. Ouais, ouais.
Trop bien. Et du coup, c'est toi à la DA. Enfin, il y a une image qui est magnifique où t'es allongé dans un transat. La pièce, elle est plongée dans le noir. Et en dessous du transat, il y a des dizaines de bouteilles en cristal qui sont elles-mêmes éclairées. Donc, ça fait que c'est elle, la source lumineuse... de la pièce, quoi. C'est toi qui es à la DA, c'est toi qui vois ça, ou comment est-ce que tu t'entoures des personnes qui composent les images avec toi?
Pour ce clip et celui d'Un homme et une femme, c'est Yann Weber qui était à la réalisation, qui maintenant est un ami, et j'étais très 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 contente qu'on fasse ces clips ensemble. Donc j'avoue que c'est beaucoup de tableaux, c'était ces idées, parce que les réels, ils mettent... mettent tout dans, dans les clips, toutes leurs inspirations, leur liberté, etc. Maintenant, voilà, moi, c'était l'univers mécanique que je voulais mettre en place. Le côté transat, c'est parce que j'aime bien quand tout est toujours en surchauffe dans les clips, dans mes clips. Donc, il y avait aussi ça. Et puis là, je ne l'ai plus en tête, mais voilà quoi.
Et pour revenir aux voitures, on nous voit aussi au volant d'une belle voiture au capot complètement défoncé, la tôle prête à exploser. Et sur ton compte TikTok, il y a un behind the scenes. Il y a une vidéo où on te voit dans une sorte de casse automobile diriger la destruction de ce même capot. Et puisqu'on parle d'image, donc t'as un fameux compte TikTok où on te voit chanter, mais aussi donner des conseils pour être en couple, commencer une collection de râteaux par message, documenter la livraison d'un piano via une grue un jour de tempête, enfin plein de choses. C'est quoi ton rapport à ces espaces que sont les réseaux sociaux? Tu nous parlais tout à l'heure des haters en motocross.
J'avoue, par exemple, je suis quand même un peu control freak sur Instagram, malheureusement, dû au fait que je suis une trentenaire. mais par contre, TikTok, je suis en roue libre absolue. Bon, il m'arrive parfois d'aller enlever certaines choses. Je suis quand même un peu vexé quand ça ne rentre pas dans les algos. Hein. Mais ouais, par contre, c'est la roue libre absolue.
C'est donc ton défouloir, ton exutoire. Coach,
ouais. Je chante à la fenêtre pour que les oiseaux viennent manger sur la mangeoire que j'ai installée quand même. et voilà, c'est le lifestyle.
Et donc, on peut te voir sur TikTok, mais aussi sur les scènes des cabarets, notamment celui de Madame Arthur à Paris, où tu es résidente depuis 2022. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée avec l'équipe? Comment est-ce que ça s'est fait?
Avec l'équipe de Madame Arthur,
comment est-ce que tu es arrivée là-bas?
C'était il y a plus de 3 ans. J'avais pas de travail, j'étais au RSA. Et j'avais déjà postulé plusieurs fois. Et je me suis dit, bon, retente. Alors que j'ai quand même Mars en Lion, donc j'ai du mal avec les vents et les lapins, etc. Donc je me suis dit, allez, on retente, on renvoie une vidéo. Et cette fois-ci, j'ai dit, bon, je précise aussi que j'ai l'oreille, pas absolue, mais l'oreille relative, donc je vais très vite pour déchiffrer, je joue bien, etc. Je suis un peu plus vendu que d'habitude, et ils m'ont dit, bah, tu commences dans 2 jours.
Incroyable.
En mode, ok. Donc incroyable. D'un coup, ça allait très très vite.
Et au cabaret, il y a un rapport assez particulier au public qui est tout près, souvent, qui est invité à réagir un peu plus que dans les théâtres. Est-ce que tu aimes cette partie-là? Qu'est-ce que ça a créé, ce rapport-là, au public, au cabaret Madame Arthur, notamment, et ailleurs?
Ouais, moi, ça a été un énorme virage. Bah, en plus, je ne suis pas passée par le monde de, on va dire, du drag avant, parce que je n'ai pas été dans ces cercles-là jusque-là. Donc, j'ai vraiment... J'ai commencé, on va dire, ma transition quelques mois avant. Et je suis arrivé chez Madame Arthur, où j'étais pour moi une chanteuse, quoi. Et petit à petit, j'ai découvert tout ce qui est thérapeutique chez Madame Arthur, notamment cette carapace d'invincibilité qu'on apprend à maîtriser. Et donc, derrière, ce que ça apporte dans la vie, de pouvoir performer le côté invincible. Le simple fait aussi de... Je me suis très vite dénudé chez Madame Arthur. J'ai commencé en robe et maintenant, on va dire que je suis 90% du temps en lingerie. Et en fourrure sur la lingerie, c'est un peu ma... C'est comme ça qu'on me décrit également là-bas. Quand je dis « Ah, j'ai changé de tenue !» On me dit « Oui, bon, ça va être globalement de la lingerie et de la fourrure dessus. » Mais ça m'a fait un choc de découvrir que, en fait, mon corps était féminin. Enfin, rien que ça, déjà, c'était féminin ou pouvait au moins tendre à ça. Enfin,
il y avait un truc réparateur, quoi.
Ouais, moi j'ai vraiment grandi dans un déni total. Vraiment, je pensais pas, en fait. Vraiment, un jour j'avais enfilé une robe pour rigoler d'une copine. Elle avait dit, ouais, ça te va trop bien. Enfin, je me rappelle de ce jour parce que j'ai vraiment rigolé avec mes 100% de certitude que c'était une blague et que ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Donc j'étais très loin de tout ça, de m'imaginer tout ça dans un bon déni bien fort. Et donc, chez Madame Arthur, il y a eu également ça. Et puis le fait de pouvoir aborder des sujets très personnels. J'ai cramé mon dead name plusieurs fois sur scène. des choses fortes.
Volontairement, ça faisait partie de...
Ouais, j'avais chanté une chanson, c'était sur la spéciale Daft Punk. J'avais chanté une chanson, comment elle s'appelle ?
Within.
Ouais, Within.
Within.
Et il dit qu'il oublie tout, et donc je disais, j'oublie mon dead name, et je le cramais.
Supplie.
Et je sais pas, c'est des, on peut faire des actes symboliques comme ça, et ça marque.
Loa, on continue à passer cette petite heure avec toi jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris, mais là on va faire une petite pause puisque c'est l'heure de Mal.
Oh oui.
On t'écoute, bonsoir
mes petits bouchons LGBT. Est-ce que je vous ai manqué?
Oui.
Désolé, j'étais vraiment occupée à faire deux activités que je fais tout le temps. La première, c'est pleurer du sang sur ma thèse. Ça me prend énormément de temps. La deuxième, c'est m'échapper de cette réalité en dessinant mon nouveau personnage préféré, qui est la personnification d'une télé à écran cathodique en instance de divorce. Qui dit mieux ? Je l'ai affiché partout dans notre nouvel appart. Mon mec l'adore et il n'a pas le choix. Tout ça, ça m'a inspiré un peu une histoire qui m'est arrivée de diagnostic sur le spectre autistique qui s'est soldée par, je cite, « Non, vous n'êtes pas autiste. » Alors oui, comme ça, on dirait... Mais si vous l'étiez vraiment, vous seriez bien, vous ne sauriez pas le cacher aussi bien. Voilà, donc qu'on me dise que je suis surqualifié pour un job avant d'avoir ma thèse, ça ne présage rien quant à mon avenir professionnel. L'entretien s'est quand même terminé par « mais vous êtes sur le spectre, bien entendu ». Donc moi, j'ai rien compris, en fait, à ce diagnostic. En tout cas, ce soir, je vais être sur tous les spectres. Donc, laissez-moi vous parler d'un jeu vidéo que j'adore énormément en ce moment, sur lequel j'hyperfixe énormément. Je vais vous parler de Deltarune.
Oh.
Oui, je vois vos mines circonspectes. Laissez-moi vous convaincre. Deltarune, en fait, c'est un jeu du genre jeu de rôle qui combine aussi des mécaniques de bullet hell et... Oui, bon, vous en foutez, très bien. Bon, laissez-moi vous décrire un petit peu l'univers fantastique dans une époque moderne avec des gentils monstres et où les objets prennent vie dans des mondes parallèles. La télé est pédée.
Oh.
Voilà. Et on découvre chapitre par chapitre une prophétie. Oui, voilà, je vous ai encore perdu. Laissez-moi une dernière chance. Si je vous dis qu'il y a énormément de gays, de queer et de dinosaures, et c'est en plus des lesbiennes. Très bien, bon, je vois que j'ai recapté votre attention, c'est super. Car oui, ce jeu déborde de personnages queer sans aucune raison. D'ailleurs, juste pour le kiff, et qu'est-ce qu'on kiffe ? On y incarne d'ailleurs un personnage non-binaire, et j'insiste, ce n'est pas un protagoniste non-genré par souci d'identification pour les joueuses. Non, c'est un perso non-binaire, en est lui-même. Autre détail, la queerphobie n'existe pas. Voilà, ça fait du bien. C'est pas souvent qu'on peut le dire, mais voilà. Je vous ai évidemment parlé de la télé en instance de divorce, avec son ex qui est l'incarnation du dossier spam de vos mails. Je vous dis que les objets prenaient vie. Laissez-moi vous dire que non, les relations queer ne terminent pas plus mal que les relations hétéros. Voilà, j'ai juste adoré le mauvais exemple. L'histoire est même centrée autour d'une romance lesbienne positive.
Oh.
Et oui. En tout cas, si vous aimez l'humour absurde, les RPG, les personnages queer et ou en couleur, je ne peux que vous conseiller de jouer à Deltarune cet hiver. Les derniers chapitres sont sortis cet été et le prochain est prévu en 2026.
Bah, merci beaucoup, Mal. Loa, toi, t'es branchée jeux vidéo ou...
moi, j'ai des addictions à des jeux sur le téléphone. Je suis... je pense que j'ai un âge mental... genre 82 ans, donc je suis sur des jeux de chiffres, jeux de lettres.
Ah oui, etc. Ah oui, je suis plus ça. Mais je crois que ça rentre dans la catégorie geek. On a fait une émission là-dessus il y a quelques années où en fait ça marche quand même. Très bien, en tout cas, on est toujours avec la chanteuse Loa Mercury à l'occasion de son concert à la Maroquinerie. C'est lundi prochain. Et toi, Lucie, il y a une chanson de Loa, un de ses très récents titres dont tu as envie de nous parler là maintenant.
La mémoire des mélodies, moi, ça me fascine. J'adore voir ressurgir des chansons du fin fond de mes souvenirs. Je pensais les avoir complètement oubliées. Parfois, j'y ai pas repensé depuis 15 ans. Mais dès que j'entends les notes, tout me revient et surtout l'émotion du moment que je vivais à cette époque. Et il y a des personnes qui ont le pouvoir de déclencher ce petit moment mystique, dont tu fais partie, Loa, avec une de tes chansons, qui est sortie au printemps, un homme et une femme autour de la table et chez vous. Faites l'expérience. Est-ce que vous reconnaissez ces notes ? Fermez les yeux, on écoute.
Comme je suis un homme et une femme, mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses en étant beau et belle.
retour au lobby, édition Blind Test ce soir. Est-ce que certains, certaines autour de la table ont reconnu la chanson de 2007?
La fois que j'ai entendu, j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, je connais. Donc, je sais.
Dis-nous.
Mon mec a reconnu, c'est Calogero, c'est Pomme C, si je dis pas de bêtises.
Avec super. Zazie, tout à fait, absolument. Complètement. Absolument. C'est une chanson qui date de 2007. Tu l'as réécrite, tu en as fait une chanson sur la transness, l'identité de genre floue, fluide, multiple, la non-binarité. Tu t'y adresses à une personne, la pauvre, enfermée dans l'hétéronormativité qui alterne entre attirance, répulsion. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce son? Où est-ce qu'il est né? Comment est-ce que c'est arrivé?
Il est né autour d'un show qu'on préparait avec Power Bottom, je pense que vous connaissez. Et je voulais faire une chanson avec lui, donc on réfléchissait. Et dans l'établissement, quelqu'un était en train de chanter en apesanteur, je pense. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, je vais chanter Tom, tu es un homme et une femme. Oh. Donc ça a commencé comme ça, où je voulais chanter ce refrain et que lui, il me réponde un truc et tout. Et puis, il s'est désolidarisé parce qu'en fait, il ne la connaissait pas. Donc, il n'arrivait pas à chanter. Donc, du coup, je dis, je vais faire la chanson seule. Ça, c'était le jour même. Hein. Et donc, du coup, le soir même, je l'ai faite seule parce que je l'ai écrit du coup, en, je sais pas, une heure ou deux pendant la répète, quoi. Réécrit, pardon. Et en fait, le soir, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de plus fort que prévu parce que pour moi, chez Madame Arthur, on réécrit constamment des choses. Et là, je me suis dit, ah, ok, bizarre. Enfin, l'ambiance était vraiment différente. Et plus je la faisais, plus je voyais qu'elle avait un pouvoir, quoi. Je peux pas le dire autrement. Je pense que... Et elle est née tellement rapidement et tellement simplement. Enfin, en musique, c'est un peu la recette qu'on veut tous, quoi. C'est cette espèce de simplicité qui se diffuse et tout. Et encore aujourd'hui, les vidéos d'un homme et une femme sur les algorithmes ne s'arrêtent pas. Enfin, elles continuent d'avancer. C'est quand même fou. Et à la base, j'avais pas prévu de la sortir ou d'en faire une vidéo, etc. Déjà, il y a Yann Weber du coup qui a voulu la mettre en image, donc j'ai foncé dans le projet. Et puis non, des retours de personnes, en fait, des parents, des retours de gens hétéros et pas du tout sensibilisés par nous, qui étaient émus aux larmes en écoutant ces paroles. Et je sais pas, par exemple, je me rappelle, je l'ai chanté, c'est où le débarquement, déjà la plage débarquement ?
Normandie.
Dans une ville en Normandie, donc vraiment loin du lobby. La personne à la fin est venue me voir vraiment en ayant beaucoup pleuré. Elle m'a dit, dans notre entourage, on a un couple d'amis dont l'enfant est en train de transitionner. Ça nous fait tous très peur, mais quand on a entendu ta chanson, on a compris et maintenant on est en paix avec ça. Et
incroyable.
Je me suis dit, alors faut donner de la place à cette chanson alors, parce que c'est, y a rien de plus important.
Incroyable. Évidemment, tu as échangé avec Zazie et Calogero pour les informer, leur dire que tu avais fait cette reprise. Comment est-ce qu'ils et elles ont réagi?
Ils étaient très, très, très émus. Moi, je ne les ai pas eus en direct. C'était mon label qui les a eus en direct. Et très émus, les deux.
En fait, je trouve ça assez beau aussi que tu aies choisi cette chanson qui réunit Calogero et Zazie. C'est des artistes... Calogero, je me suis entendu, ça m'a gêné.
Calogero.
C'est des artistes de chansons françaises populaires qui ont, en leur temps, ont aussi écrit sur la queerness. En 2001, Zazie, elle célébrait les amours pédés dans sa chanson Adam et Eve. Et en 2014, Calogero a écrit une chanson qui s'appelle J'ai le droit aussi. C'est des chansons, c'est facile aujourd'hui de s'en moquer un peu, de les mépriser, de les prendre de haut. Aussi parce qu'elles sont en partie datées, mais j'ai l'impression que toi, et cette chanson le montre aussi, tu portes un regard qui est aussi assez tendre, je crois, sur ce répertoire, je sais pas.
Moi j'ai toujours aimé aller chercher la beauté dans des choses qu'on a l'habitude de plutôt mépriser, qu'on verrait pas dans un moment émouvant.
Ouais.
J'ai une reprise, par exemple, je reprends Dorjden Monsoon de Tokyo Hotel, où j'ai réécrit, et pareil, c'est hyper, c'est beaucoup plus touchant et triste, apaisé. Je reprends une chanson de Jennifer qui sera d'ailleurs dans mon live à la Maroquinerie. En fait, j'adore aller chercher des trucs complètement. Une des premières chansons que j'avais reprises, c'était le générique des Bronzés.
Ok.
On avait fait un truc aussi. J'avoue, j'ai ce fil rouge de kiff.
D'aller chercher des trucs qu'on va un peu snobber aussi.
Bah, en fait, je pense que c'est camp, actually. Je pense que c'est du camp art avec la musique parce que je trouve ça cool ouais, de donner un potentiel en mode l'arme qui monte sur un truc où d'habitude on méprise. Quoi.
Et à propos, j'avais vu une vidéo d'une reprise de la complainte d'une serveuse automate de Starmania. Est-ce que tu as envie de lui faire suivre le même chemin, de l'enregistrer en studio, de la sortir
Ouais, bah tous mes amis veulent que je la sorte parce qu'effectivement, visiblement, elle est bien. ma version est bien. Mais bah ouais, peut-être un jour, ça viendra.
Et est-ce que tu travailles sur d'autres projets qui ne sont pas de la musique ? Est-ce que ce rapport à l'image-là, t'as envie d'aller vers quelque chose plus du cinéma, de l'image ?
Peut-être. Peut-être qu'il y a des projets, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est tôt, mais pourquoi pas ? Moi, je pense aussi avoir pouvoir être une parole, ne pas seulement chanter et prendre la parole et mettre ma personnalité et ma vision des choses au service d'autres médias et d'autres voilà d'autres échanges quoi, pas seulement par la musique et par les concerts. Donc effectivement, il y a peut-être des choses qui vont se passer.
Peut-être il faudrait revenir pour nous en parler dans quelques temps.
Oui. Hein. Ah bah je veux bien mon rendez-vous biannuel. Hein.
Le rendez-vous est pris. Moi je t'avais vu sur TikTok, le premier TikTok que j'ai vu, enfin la première fois que je t'ai vu c'était sur TikTok et tu faisais une distribution de flyers pour ton concert à la Maroquinerie, une distribution iconique de flyers dans du pâté qu'un vieux monsieur tient dans la rue, bref. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette date à la Maroquinerie ? T'as commencé un petit peu à nous en parler tout à l'heure.
Ben, moi, quand je faisais mes concerts de mon EP précédent, j'en ai fait quelques-uns à Paris. Dès que je suis arrivé sur scène, je me suis rendu compte en fait que j'étais frustré de mes propres chansons parce que je les ai trouvées trop douces, trop mignonnes et que justement je me suis dit mince, il manque une énergie de violente, brutale qui n'est pas là. Et donc là j'ai vraiment renoué avec ça et je pense que ça va être un virage quoi pour des gens qui me connaissent depuis plusieurs années, même si c'est pas grand chose parce que je suis encore toute petite, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus bah c'est la douceur dans la violence quoi.
Et peut-être pour finir, il y a deux ans on a eu donc cette EP Ellipse. On a ce concert à la Maroquinerie, tu as ce concert à la Maroquinerie lundi. On imagine que la suite logique, ce serait peut-être d'avoir un album. Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux parler, que tu peux nous teaser maintenant ?
Ouais, bah effectivement. Donc, entre-temps, j'ai été accueilli par un label. Mm-hmm. Déjà, je suis... c'est une énorme chance que j'ai eue que bah, en fait, des personnes fassent confiance à un projet... d'une personne trans. En fait, c'est extrêmement... c'est rare. Je suis consciente que mes chansons sont bien et que j'ai du talent et que ce que je fais, ça mérite d'être visibilisé. Et je trouve que les labels classiques tournent le dos, en fait, à des projets comme ça. Même la presse, moi, je me rappelle, sur mon EP, mon attaché de presse me disait... C'est la transidentité, c'est compliqué dans la campagne. Donc voilà, je trouve ça beau que mon label il croit en moi. C'est une belle aventure que je vis avec eux. C'est un label de rock à La Rochelle. Du coup, je suis toujours plus dans le rock. Vraiment, je vis ma meilleure vie. Et voilà. C'était quoi la question déjà ?
Ben, c'était un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous annoncer
pour
la suite ?
Ah oui, donc je prépare un album.
Voilà.
Enfin, il est presque prêt. En fait, il est prêt, ça y est. Il est prêt, simplement, il faut que ça sorte un minimum en grande pompe, quoi. Mais voilà, 12 chansons qui sont là. Et qui attendent juste là.
Elles sont sous nos yeux, tu te rends compte, Lucie ? Eh ben merci beaucoup.
Il y en a une qui sort en janvier.
Ok. Le rendez-vous est pris. On redonne aussi la date de ton concert à la Maroquinerie, c'est le 15 décembre. C'est déjà complet, mais ça s'annonce iconique et rock. Et on pourrait écouter à l'infini ton EP Solstice. En attendant la suite, merci Loa, tu restes avec nous car la suite de notre côté tout de suite est du cinéma puisqu'il est l'heure de ton ciné-club. J'avais la Bibi, c'est à toi.
Et oui, bonsoir Colin. Ce soir, je poursuis ma redécouverte des films non cringe du patrimoine. Et on le sait, ils sont rares. Tu peux lancer le petit son derrière moi, je ne sais pas si on l'entend.
On l'entend, je
l'ai George Michael, qui est en vibe d'anxiété, lui aussi à l'approche de Noël. Car bienvenue dans l'enfer de Noël et dans la période la plus triggering de l'année. J'ai donc revisionné pour vous La Bûche de Daniel Thompson, film de 99. Le générique d'ouverture nous propulse directement dans le sujet puisqu'il fait raccorder les couronnes de Noël dans Paris et une couronne mortuaire. Et oui, le film s'ouvre au cimetière où l'on rencontre une famille décomposée, le deuxième mari de la mère ayant eu la bonne idée de mourir un 21 décembre. Alors tout le monde est adulte dans l'histoire et c'est aussi ça qui est joyeux, un film de Noël sans enfants, avec des rapports sans détour.
Je sais pas comment tu la supportes.
T'es dur. Sans elle, on serait jamais tous ensemble.
Bah, y a toujours les enterrements. Hein.
Il y a toujours les enterrements. Cette voix, c'est celle de Mila, jouée par Charlotte Gainsbourg. Mila, dont on dit qu'elle souffre de dépression saisonnière à cause de Noël. Bon, en même temps, elle est jouée par Charlotte Gainsbourg. Hein, donc, c'est peut-être pas juste la saison qui la déprime, Mila. On la suit, elle et ses deux sœurs. Emmanuelle Béart, qui adore Noël, du coup, tout le monde la juge. Et Sabine Azéma, qui arrive à nous faire croire qu'elle chante en russe dans un cabaret de tziganes. Ah bah, si vous aimez le drag, là, il y a de la perruque et du lip-sync. Sabine, chantez You Slay. On retrouve tout le décorum du film de Noël, les Galeries Lafayette, des parents qui font du chantage à la mort, et justement, c'est Françoise Fabian qui joue la mère.
En plus, je connais papa, il va se mettre dans un coin.
Mon mari vient de crever, vous n'allez pas me faire passer Noël avec ce vieux con.
Alors le film est féministe, parce que c'est d'abord l'histoire de ces quatre femmes qui ont quatre approches différentes de la famille, c'est-à-dire allant du désir de réunion au désir de désertion. C'est aussi différents rapports au fait d'être mère ou pas, au désir et au métier. Puis un truc que je trouve bouleversant, c'est qu'on voit aussi tout le réseau d'entraide entre sœurs, ou comment souvent en famille, la meilleure façon de faire passer une info, c'est de l'adresser à quelqu'un d'autre. Puis le film montre très bien, notamment dans une scène entre Sabine Azéma et son père, comment elle a beau avoir 40 ans. Sa patience a une durée de 2 minutes 30 avant explosion, hein, comme nous tous au final. J'en parlais avec un ami. Il me semble que la question en famille, c'est pas tant de savoir si ça va finir par péter, mais au bout de combien de temps ? Chez lui, ça tient même pas le trajet en voiture depuis la gare, hein, donc 20 minutes à peu près. Et au final, bah, je trouve que c'est ça, le plus pénible avec Noël. Toujours, c'est cette dissonance cognitive, parce que t'as envie de faire la fête, mais en même temps, t'es pas en confiance. C'est l'équivalent d'un moment de détente en hypervigilance, hein, que ce soit parce que certains membres de ta famille sont pas éduqués aux questions queer, et qu'à tout moment, au détour d'un toast au saumon, paf, un truc problématique. Ou alors parce que même quand tes parents sont des alliés, bah, la plupart du temps, toi, tu es en thérapie, mais pas eux. Du coup, tu dois faire le boulot pour tout le monde et faire barrage à la névrose collective. Attention maman, j'envoie un SMS à un ami. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. En tous les cas, le film nous rappelle que la famille, c'est compliqué pour tout le monde. Et ça fait du bien en fait de voir des personnages galérer comme nous. Parce que la conclusion, c'est qu'on n'y arrivera pas. Et que c'est pas grave. À l'arrivée, une partie des personnages déserte. La mère se tire au cabaret avec la première femme de son mari. Sabine Azéma est enceinte d'un homme marié et performe avec son père, qui n'est peut-être même pas son père biologique au final. Et ça n'a plus aucune importance. Et c'est en ça que le film est queer. À la fin, le cadre explose. Les personnages inventent d'autres façons d'être ensemble. L'occasion de se rappeler que la famille, au fond, c'est un prisme parmi d'autres. Un cadre dont on peut tranquillement entrer et ressortir.
Eh ben merci beaucoup, Javel. On rappelle les références du film dont il était question ce soir.
C'est La Bûche de Daniel Thompson.
Eh ben merci beaucoup. Et à propos de cinéma et de famille qui sont des cadres dont on peut sortir de temps en temps, on peut aller voir ton court-métrage, Nous les Prochains, ce jeudi 11 décembre à 20h. C'est au MK de
Beaubourg. Oui,
exactement. C'est ça. Et puis, après le succès tonitruant de la précédente édition de la soirée Habibi que tu animes plus, pas tous les mois, un petit peu moins, on en a parlé, à la Flèche d'Or. On va peut-être donner la date et le thème de la prochaine.
Bah, la prochaine, ce sera le 19 décembre à la Flèche et ce sera le thème de la cavale. Donc encore une fois, l'échappée belle, la désertion.
Voilà, et comme d'habitude, une projection, un court-métrage et puis le drag show animé par Javel Habibi et la playlist de Radio Tempête. Allez, dans un instant, le KLIF, le collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France, vient nous parler d'une enquête menée par le collectif justement sur les LGBTI-phobies dans l'enseignement supérieur. C'est juste après ça.
Hier soir, je suis rentrée bien sous. Tu m'as donné des coups. Toi, tu penses que je t'ai trompé. Tu me fais mal à la tête. Rejoins-moi dans la fête. Dans ce monde où rien n'est parfait. J'ai mal au cœur, mais c'est bien quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi. J'ai mal au cœur, mais c'est bien quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi.
moi comme ça. À part moi, dis-moi qui va te donner ça comme ça. My girl, mon petit cœur est saccagé. C'est pas dans le bonheur que j'ai appris à nager. My girl, aucune autre peut te dire pour te présenter, j'ouvre mes bras comme Will Smith. My girl, j'aime trop te voir danser. Mes deux mains sur tes hanches, j'aime trop te voir pencher. Mais on la reggae, dans tes bras mon repère. On va tout recommencer, regarde c'est tout cassé. Mais au fond tu sais que c'est cool. Elle dit quand toi et moi on fuck, t'es la plus grande vagabonde. Le jour il te voit tout sans passe, lady. Pardon si je t'ai fait mal, et si t'es l'homme dans métal, on fera le tour du club, lady. Hier soir je suis rentrée bien sous, il m'a donné des coups. Toi tu penses que je t'ai trompé. Tu me fais mal à la tête, rejoins-moi dans la fête. Dans ce monde où rien n'est parfait. J'ai mal au cœur mais c'est mieux quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi. J'suis mal au cœur mais c'est pire quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi. Ma gueule, ma gueule.
T'es mon bébé, 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 je rêve en grand donc. Je veux pas tomber, tu peux rester sur le banc. Et je veux pas tomber, mais si tu veux faire le compte. En gros, même si je l'ai baisé, moi je suis neigeux comme un blanc. Les petits tournent genre tic-tac, tu veux sur le clic-clac, bof. Si tu veux du love, moi je t'en big craft. Fort car je les stack, stock, tac et je suis dans le casse là. Si tu veux de l'or, moi je t'en big craft fort. Mais hey, baby, cal, j'aime tes doutous. Rends ça officiel, j'ai déjà passé des records. Crébasse, négro, corp, la holding sera comme notre corps à corps.
J'ai mal au cœur, mais c'est pire quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi. Pense à toi même quand je me bats, la la la. Tu souris devant les paparazzi. Mais j'ai mal, j'ai mal.
Hier soir je suis rentrée bien sous, tu m'as donné des coups. Toi tu penses que je t'ai trompé. Tu me fais mal à la tête, rejoins-moi dans la fête. Dans ce monde où rien n'est parfait. J'ai mal au cœur mais c'est pire quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi. J'ai mal au cœur mais c'est pire quand t'es pas là. Souris devant les paparazzi.
My girl, my girl.
Vous écoutez Radio Campus Paris, le lobby. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Lucie ?
On vient d'écouter Théodora et Meryl, c'est Reine. Mais là, des feats iconiques comme ça, il y en a un tous les 10 ans.
Donc il faut absolument l'écouter en boucle.
Il faut écouter l'album de Meryl qui vient de sortir, La Dame, streamé.
Allez, 20h43.
Le lobby. Radio Campus
Paris, yeah. Et nous sommes toujours avec Loa Mercury qui nous rend visite alors qu'elle est en plein dans ses préparatifs de son concert à la Maroquinerie le 15 décembre. Je le redis, c'est complet. Et à cette heure, dans le lobby, on met un coup de projecteur sur des initiatives queer à Paris et en Ile-de-France. Alexis, Adrien, rebonsoir. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Bonsoir.
Qui sont vos invités ? C'est à vous.
Eh bien, c'est Com et Matt, car nous avons deux invités, deux fois plus d'invités, deux fois plus de stats. Merci de venir lobbyer avec nous au lobby.
Enchanté, merci de l'invitation.
Donc vous faites tous les deux partie du CAILIF, trésorier et vice-président, je crois.
Exactement.
Le CAILIF, rapidement, c'est une asso qui a été fondée en 2001. C'est une asso qui commence à dater, vous allez fêter vos 25 ans en octobre de l'année prochaine. C'est une inter-asso de collectifs LGBT en Ile-de-France qui concerne l'enseignement supérieur. Donc c'est des collectifs dans les écoles, des collectifs dans les facs. Voilà.
C'est ça. Et du coup, moi, juste avant, je voulais juste revenir sur une autre association qui a des combats qui sont proches des vôtres, qui est l'Autre Cercle, qui, eux, agissent contre les discriminations LGBTQIA-phobes en entreprise. En 2024, ils avaient notamment publié un baromètre qui relève notamment que moins de 6% des Français non LGBTQIA+ employés sont mal à l'aise face à un coming out de leurs collègues homosexuels. Et c'est un chiffre qui monte à 21% quand ça concerne le coming out d'une personne trans. Et puis, le niveau des agressions subies par les employés LGBTQIA+ est de 28%. Alors, du coup, ma question, c'était, vous aussi, au CAILIF, vous menez un baromètre sur les discriminations LGBTQIA+, et dans l'enseignement supérieur, est-ce que vous pensez que ces discriminations qui ont lieu au travail voient leurs prémices déjà peut-être dans les établissements de l'enseignement supérieur?
Non, oui, plutôt oui. Effectivement, l'Autre Cercle, c'est une association qui, à l'origine, est effectivement plutôt focus sur les entreprises, mais depuis une dizaine d'années, elle s'ouvre à l'enseignement supérieur. On a d'ailleurs lancé avec elle, on a décliné plutôt le le partenariat qu'ils ont avec certaines entreprises qui font du coup maintenant avec les établissements une charte qu'on a fait donc avec le Calif et l'autre cercle pour l'établissement qui est de plus en plus signé et qui est quand même assez indicatrice des établissements qui font des efforts sur la question LGBTphobie. C'est, vous citiez effectivement l'étude de 2024, ils en ont même sorti une l'année dernière. Oui.
Régulièrement.
Enfin, 2025, je me crois déjà en 2026. Sur plus précisément les jeunes, avec des chiffres qui sont aussi très sidérants. On parle d'un quart de personnes qui ne font pas leur coming out quand elles sont dans l'enseignement supérieur. Ça passe à la moitié dès leur premier emploi ou pendant leur stage. C'est tout ça montre effectivement que ces discriminations que l'on peut voir dans le monde du travail sont déjà présentes, même si amoindries, elles sont présentes en université.
Ok. Et quand on voit, que ce soit dans des assos, un peu quand on milite, on voit il y a quand même pas mal de, il y a parfois des chiffres qui ressortent, mais c'est souvent les mêmes enquêtes. Il y en a assez peu finalement. Il y a l'enquête VIRAGE, il y en a quelques-unes qui reviennent assez. Assez régulièrement. Comment ça se fait que, alors qu'on voit très clairement et qu'on les vit, c'est LGBTphobie, comment ça se fait qu'il y ait aussi peu d'enquêtes sur le sujet ?
Déjà, il y en a plus, de plus en plus. C'est quelque chose qui est à noter. Quand on sortait notre baromètre, nous, en 2020, on était à peu près les seuls. Aujourd'hui, effectivement, on peut parler de l'autre cercle. On pourra, je pense, on en parlera plus tard possiblement, mais d'Acadiscri, qui est une enquête scientifique faite par les universités. Ça commence à arriver. On a quand même depuis plusieurs années des enquêtes qui sont faites, notamment par des associations. On peut parler des enquêtes du refuge, on peut parler de celles de SOSMOSOPHOBIE, mais qui subissent, qui ont des graves problèmes de biais parce que c'est souvent des personnes qui vont les voir et ensuite ils font des stats sur ça. Donc il y a un biais énorme qui se joue ici.
Ok. Et donc, vous travaillez aussi auprès des institutions politiques. Est-ce que vous remarquez qu'aujourd'hui, peut-être, c'est plus compliqué qu'avant ou pas de travailler avec elles quel est votre ressenti, vous, par rapport à ça
Non, mais pas de souci. C'est très compliqué de dire, pour une raison simple, on est une association étudiante, donc il y a un turnover qui est énorme. Je ne peux pas vous répondre sur le long cours, parce que, en fait, moi, il y a 2 ans, je n'étais pas là, et ceux qui étaient là il y a 2 ans ne sont plus là. Il est sûr que c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'être ouvertement homophobe, et LGBTQI-phobe de façon générale, même si ça nous arrive aussi très souvent. On vous dit bonjour, on vous accueille, des fois on offre le repas, on vous promet des choses, et puis on relance. Et puis un mois, 2 mois passent, et puis on n'a toujours pas de nouvelles, et au final, on nous envoie bouler quand on avait des projets qui auraient pu être en place. On doit dire, oui, c'est super, on veut faire avec vous, et au final, rien n'est fait.
Et quand on voit pareil, moi je suis encore sur les stats, j'adore les stats, fan de stats.
On est deux, il n'y a pas de souci.
Je suis pro-stats. Quand on voit notamment avec les tranches d'âge, on voit qu'il y a toujours, ça diffère pas mal, et même notamment dans la proportion de personnes qui se considèrent et qui se revendiquent LGBT, notamment chez les jeunes, je vais définir jeunes à peu près 18-30 ans, hein, c'est juste les stats, on voit qu'il y a quand même, ça bouge pas mal, on est quasiment à 20% de personnes qui sont LGBT, c'est par rapport aux autres générations énorme, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait d'avoir une population qui est peut-être plus queerifiée que les autres ?
Déjà qu'il y a plus de monde qui va s'affirmer, ça va vraiment, je pense, montrer qu'on existe, quoi. Mm-hmm. Et vraiment, je pense, nous, dans le milieu étudiant, de montrer notre voix par rapport aux établissements, tout ça... De montrer vraiment qu'on existe.
Le fait d'avoir peut-être pas une masse critique encore, mais plus de monde, en tout cas, ça aide d'un point de vue. Vous le voyez, concrètement.
Oui.
Ok.
Et on voit ce qui est super intéressant aussi, les différences en fonction des lieux géographiques et des établissements. Je reprends l'étude de notre cercle, qui montre qu'il y a des différences géographiques. Notamment, ils prennent 2 exemples, les extrêmes, bien sûr, mais c'est par rapport aux personnes, c'est les élèves qui sont ouverts en coming out auprès des autres étudiants. Et on voit 91%, la moyenne est à 80%, 91% en Occitanie et seulement 54% en Normandie. Donc un écart qui est près de 50%.
Oh, la Normandie.
Et quand on parle de filière, 93% des jeunes sont ouverts quand on est en santé pharma. On descend à 44% en droit éco-gestion. Je n'ai pas envie d'être en droit éco-gestion en Normandie personnellement. mais effectivement, c'est là qu'on voit qu'effectivement, même en fonction des filières, on peut avoir de grosses différences. Et en fait, très souvent, c'est corrélé à l'ouverture que vont avoir ces établissements des questions LGBT-phobes.
J'allais dire justement, est-ce que vous arrivez à l'expliquer, enfin du fait qu'il y ait des différences d'ouverture comme ça, ou pas forcément. Hein, mais...
enfin, personnellement, de ce que je vois, moi je suis en biologie, de ce que je vois, il y a beaucoup plus de personnes qui sont justement, c'est par rapport aussi aux partis politiques à chaque fois. On voit beaucoup plus de gens de gauche, j'ai l'impression, dans des milieux de biologie et qui, du coup, osent plus s'ouvrir et parler par rapport à cette cause-là et d'autres choses. Alors que dans un milieu avec du droit, ça peut plus se mélanger, mais ça va plutôt tourner vers d'autres partis. Et du coup, les gens ont peut-être moins... Enfin, ils vont moins s'assumer dans des milieux comme ça.
On aurait besoin de Bourdieu pour nous expliquer tout ça, peut-être.
Je mettrais aussi une autre chose en lumière, c'est le pourcentage de femmes dans les administrations. Mmh. En biologie, dans les personnes qui étudient la biologie, c'est principalement des femmes. Mmh. On est à 70%.
Ouais.
Et dans les administrations aussi. Moi, je suis aussi en bio. Je peux vous dire que l'administration, ce ne sont presque que des femmes. Et le reste d'hommes, c'est souvent des gays en plus, ce qui n'aide pas, ou au contraire, ce qui aide. Mais alors qu'effectivement, en droit, on a beaucoup plus des hommes, donc il y a aussi cette corrélation-là qui peut être faite.
Okay. Et du coup, on parlait justement du fait que peut-être il y a plus de personnes qui s'assument queer chez les jeunes, mais en même temps, on voit des études récentes qui montrent qu'il y a une montée du masculinisme, que notamment, aujourd'hui, il y a 13% des 25-34 ans qui estiment que c'est difficile d'être un homme. C'est 19 points de plus qu'il y a 2 ans. Est-ce que pour vous, cette montée du masculinisme, ça a aussi un impact sur les discriminations LGBTQI-phobes dans les établissements du supérieur?
En vrai, je pense, oui, parce que encore une fois, comme il a dit, c'est en général les femmes sont peut-être un peu plus ouvertes d'esprit par rapport aux hommes, et la montée du masculinisme, ça peut faire en sorte que justement les gens sont peut-être un peu moins à l'aise, ouais, je dirais.
Non, moi je prendrais, j'ai encore une étude, les chiffres toujours, mais il y a une étude très inquiétante, je dirais à vomir personnellement, mais c'est mon opinion, qu'a réalisé le CIDAction avec Opinion Way sur effectivement le masculinisme, et qui donne des stats absolument effarantes sur ce qu'aujourd'hui les hommes pensent et sont capables de faire. J'en ai toute une liste si vous avez envie de vomir, mais...
On va peut-être pas tout la faire, mais c'est...
Non, mais 31% des hommes se sentent plus puissants sans préservatif, et 32% des hommes pensent que les femmes doivent accepter que les hommes ne mettent pas de préservatif s'ils n'ont pas envie. Et 16% pensent que enlever le préservatif pendant un rapport sans le dire à la femme, c'est normal, et que l'homme a raison de le faire. Moi, je trouve ça...
Donc il y a encore beaucoup de travail.
Oui, et malheureusement, c'est ça empire en fait. Les nouvelles générations sont, c'est les stats. Ils ont fait les stats entre les 16-20 et les 20-30, et les stats disaient que les 16-20 étaient pires que les 20-30.
On a hâte de voir du coup les résultats de l'enquête.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On rappelle juste qu'on peut participer à l'enquête jusqu'en mars.
Oui, à peu près.
Voilà, c'est ça. On mettra le lien, nous, sur notre site, en tout cas sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup, Matt merci. Et Com du UKLIV d'être venus. Et merci beaucoup à vous, Adrien et Alexis. Delila, c'est ton moment. C'est parti.
Oui, absolument. Alors, le saviez-vous? Depuis 2001, on doit recevoir ce qu'on appelle les VARS. Vous allez me dire, ah chouette, on dirait un nom de nouvelle aide sociale. Ce serait mal connaître nos gouvernements d'austérité successifs. Les VARS, qui, contrairement à la croyance populaire, ne signifie pas existence à la vacuité assourdissante, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je dis on doit, car peut-être l'avez-vous remarqué si, comme moi, vous êtes allé à l'école depuis 2001, ce devoir, l'État a tendance à dire « Désolé, c'est mon chien qui l'a mangé » ou « Ah non, mais zut, c'est trop nul, je l'ai oublié à la maison », si bien qu'il a été condamné pour cette raison le 2 décembre à verser la somme pharaonique d'un euro, toute taxe comprise.
Wow.
Un euro symbolique, donc, qui ne suffira évidemment pas à couvrir des coûts que l'État refuse d'assumer, parce que ça va peut-être vous paraître étrange, mais comme beaucoup de choses dans ce monde, former le personnel éducatif, ça coûte une somme non négligeable de sonnants et trébuchants écus. Sinon, ça donne dissertation. À l'aide de vos connaissances, imaginez et dessinez un schéma qui explique l'anatomie, le consentement, les IST, les protections, la contraception et la déclaration trimestrielle de l'URSSAF à une classe de 40 élèves. Bref, comme je le disais, ces moyens ont du mal à arriver. On pourrait croire que l'État en est tout constipé, mais c'est surtout parce que les gouvernements successifs sont trop occupés à illustrer la proverbiale tour Eiffel de chair de Bernard Arnault avec leur langue de bois. Bon, c'est aussi à cause, et c'est le contexte idéal pour en parler, d'un affreux lobby qui étend son emprise sur la société et qui veut tout corrompre. Je ne parle évidemment pas des trans, des gouines et des PD, mais bien du lobby réactionnaire, celui-là même qui refuse toute éducation sexuelle, peut-être parce qu'ils sont persuadés que ça va les rendre, je n'ose le dire,
enculés, tapettes, PD, tarlouze, etc.
Et donc quoi, nos enfants vont arrêter de manger de la viande et ils vont sucer des bites à la place, ils vont faire des boom chemsex. Je vais le dire, où sont les valeurs chrétiennes? Ah bah oui, normal, si on apprend le consentement aux enfants, c'est moins facile de les abuser à l'église sans conséquence. Parce que oui, moment sérieux de la chronique, mais une vraie bonne politique publique en matière d'éducation sexuelle et affective financée par l'État avec un accompagnement associatif, à défaut de tout régler, ça permettrait à tout un chacun de connaître son corps, ses limites, les lignes rouges au-delà desquelles il faut parler et alerter, et aussi l'importance de se protéger pour soi et ses partenaires. En tout cas, l'État a fait une feuille de route, un petit programme pas piqué des hannetons, mais je ne suis pas dupe, et les associations non plus. De la même manière que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, un programme d'éducation sexuelle sans moyens, c'est une capote accrochée au mur avec une punaise en plein milieu.
Merci beaucoup, Delila. Chronique à retrouver sur radiocampusparis.org. Merci pour cette toute première chronique chez nous dans notre émission. On est ravis de t'avoir ce soir.
Avec plaisir.
On est toujours avec toi, Loa Mercury. Et avant de se quitter, bah, il est temps de se dire merci. Alors voilà, je t'ai donné un peu le principe. Là, tu as une minute pour remercier quelqu'un, quelque chose, un moment, comme tu veux. C'est à toi.
Je pense que là, je sors de résidence de la création du spectacle. Du coup, je vais remercier les musiciens que j'ai rencontrés parce que, bah voilà, écoutez, je suis dans l'instant présent, namasté. Je suis connecté avec eux encore maintenant. Donc voilà, je leur envoie un petit bisou de loin.
Adorable.
J'ai appelé mes Kinky Angels d'ailleurs.
Oui, j'ai vu ça là-dessus. Sur Instagram.
La boîte de prod pour ceux qui ont la ref. Sinon, vous irez voir sur Google Images.
Très bien.
Mais voilà, ce sont mes Kinky Angels, mes musiciens.
Eh ben merci. Et nous, c'est nous qui te remercions, Loa Mercury. On a hâte de découvrir sur scène ces chansons qu'on connaît, ces nouvelles chansons à venir. C'est le 15 décembre à la Maroquinerie. Et puis, ben, on en a parlé dans cette émission. Il y a aussi d'autres chansons qui arrivent. Un album, peut-être bientôt, qui est sur ce téléphone que je vois dans ce studio. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. Il y avait ce soir Lucie, Adrien, Alexis, Mal, Javel et Delila en co-réalisation. C'est un petit peu passé le relais comme ça de part et d'autre de la régie. Dans un instant sur Radio Campus Paris, c'est au pays des raves normalement. Ah si, ils sont là. Est-ce que tu veux venir nous dire un petit mot de ce qui se passe dans l'émission? Salut Elodie. Comment ça va?
Ça va.
De quoi on parle dans Au pays des raves?
Ce soir, on reçoit Vincent Chanzon et Guillaume Guay pour parler de critique universitaire autour des musiques électroniques. Donc voilà.
Bah voilà, franchement, moi si j'étais vous, je resterais sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bonne soirée.